Voici l'entrevue
Malika Camara.
Félix Houphouët-Boigny a tiré sa révérence le 7 décembre 1993 dans la capitale politique Yamoussoukro. Et lors de ses obsèques, le 7 février 1994, 26 chefs d'État, la plupart de pays africains, ont effectué le déplacement pour rendre hommage à un des personnages les plus marquants de l'époque postcoloniale sur le continent africain. On peut, à partir de trois angles de vue, appréhender Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, l'homme tout court d'abord, l'homme politique ensuite, l'homme de foi enfin. C'est une lecture qui ressort de la biographie du président Félix Houphouët-Boigny, rédigée par Jean-Noël Loukou, historien ivoirien, par ailleurs secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Jean-Noël Loukou, bonjour.
Bonjour.
La Fondation s'apprête à commémorer le décès du président Félix Houphouët-Boigny.
Je rappelle que dans l'activité régulière de la Fondation, nous avons deux moments. Le 18 octobre, qui est la date anniversaire de la naissance du président Félix Houphouët-Boigny, et le 7 décembre, qui est le jour anniversaire de son décès. Et nous marquons par des manifestations particulières ces deux dates. Et nous avons commémoré le 20e anniversaire en 2013. Et cette année, ça fait 25 ans que le président Félix Houphouët-Boigny nous a quittés. Ça fait un quart de siècle. Et la Fondation a décidé de commémorer de façon particulière ce 25e anniversaire en menant diverses activités scientifiques, culturelles, religieuses, etc.
Est-ce que c'est possible d'avoir une idée du calendrier, justement, de ce programme ?
Oui, alors nous allons commémorer cet événement sur les 12 mois de l'année 2018 avec une thématique pour chaque mois de l'année. Et nous allons procéder le 27 janvier 2018 au lancement officiel de cette année de commémoration Félix Houphouët-Boigny.
Et le clou est annoncé pour le 7 décembre prochain ?
Le clou de manifestation, ça sera le dernier trimestre de l'année 2018. Avec au mois d'octobre un colloque sur l'œuvre de paix de Félix Houphouët-Boigny, avec la remise du prix Félix Houphouët-Boigny de la recherche scientifique, et puis bien sûr le 7 décembre 2018. Voilà, donc les trois derniers mois, ça sera vraiment le point d'orgue de toutes ces manifestations. Mais comme je vous l'ai dit, chaque mois nous avons une thématique, nous avons eu une manifestation particulière.
Et là, la prochaine manifestation est prévue pour ce 27 janvier.
Le 27 janvier, ça sera le lancement justement de cette année. Nous avons au programme la cérémonie de lancement et l'inauguration de l'exposition sur Félix Houphouët-Boigny. Et puis nous aurons une conférence inaugurale sur le thème « Paix et politique d'intégration régionale de Félix Houphouët-Boigny ». Cette conférence sera prononcée par son Excellence Jean-Marie Kakou-Gervais, ancien ministre des Affaires étrangères.
On va revenir à la vie d'Houphouët-Boigny, en commençant par son cercle de famille.
Oui, souvent certains auteurs, qui ne sont peut-être pas tout à fait de bonne foi, essaient de gloser sur les origines de Félix Houphouët-Boigny. L'intéressé lui-même n'a jamais fait mystère de ses origines. Comme tout Africain, il mettait un point d'honneur à connaître sa généalogie et à réciter sans hésitation ses ascendants. Donc, dans le cas de Félix Houphouët-Boigny, on sait qu'il est le fils de Kimundi, dit Ndrika, et de Ndoli Houphouët. De ce couple sont nés quatre enfants. Sa sœur aînée, Mamie Fété, dont on a fêté le 20e anniversaire de sa disparition samedi dernier, Mamie Adjoa, ou Foua Adjoa, ensuite son frère cadet, Dia Augustin.
Félix Houphouët-Boigny, qui s'appelait aussi Dia.
Dia Houphouët, c'est le nom de la divinité qui aurait permis sa naissance, on lui a donné ça. Et souvent, les gens font une confusion, Ndoli Houphouët. Houphouët, c'est le nom de son père. C'est pas son prénom, comme on dirait dans la tradition occidentale.
Félix Houphouët-Boigny qui a suivi une formation de médecin.
De médecin. Alors, à l'époque coloniale, on formait ce qu'on appelait les médecins, c'est-à-dire africains. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait le même nombre d'années de formation que les docteurs en médecine français. Il y avait une école de médecine à Dakar, et c'est cette école de médecine que Félix Houphouët-Boigny a fréquenté après avoir fait trois années à l'école William Ponty. Et il est sorti major de sa promotion en 1925. Et il va exercer sa profession de médecin pendant 15 ans avant de s'engager en politique.
Et comment justement s'est effectuée cette transition entre médecine et politique, parce que ce sont vraiment des domaines qui sont diamétralement opposés.
Peut-être pas tout à fait, parce que le médecin qu'il était un médecin de campagne, donc il vivait les réalités de la colonisation et de l'exploitation des populations colonisées, et donc il a pris conscience de cette situation. Et cette élite-là, bien que formatée par l'école coloniale, s'est mise du côté des populations exploitées pour pouvoir faire changer les choses. C'est comme ça qu'est venue la prise de conscience politique qui a commencé quand il était en poste dans l'Indénié, qui était le plus gros producteur de cacao de la colonie à l'époque. Et les planteurs étaient proprement volés par le commerce colonial sur les prix, pour pouvoir ne pas donner les mêmes prix pour les planteurs français et les planteurs ivoiriens. Et c'est ainsi qu'il a organisé une grève de vente du cacao en 1932. Il a même écrit avec d'autres un article intitulé « On nous a trop volé » qui a été publié en décembre 1932. Donc c'est à partir de son poste de médecin à Bengourou qu'il y a cette prise de conscience politique.
Mais publier un tel article à cette période, c'était assez courageux.
C'était assez courageux. Il a été convoqué par le gouverneur de l'époque, Gourgine, pour lui remonter les bretelles. Et puis ensuite, il a été sanctionné dans son avancement. Il était proposable au grade supérieur, il ne l'a pas été. Voilà, ça a été les conséquences de cette prise de position.
Et il a mis quelque temps après fin à sa carrière de médecin.
Il a mis fin à sa carrière de médecin après avoir servi à Dimbokou et à Toumoudi. C'est arrivé avec un autre événement, il a perdu son frère cadet qui était le chef de canton des Akoué. Et donc, il a été chef de canton pendant 6 ans. Et puis après, c'est la politique, il est élu député à l'Assemblée constituante, ensuite député à l'Assemblée nationale française, et puis ensuite, il aura la carrière ministérielle.
Et on sait qu'il a été 5 fois ministre au sein du gouvernement français. Comment expliquer cela ?
6 fois. Il a été 6 fois.
6 fois.
Il a été 6 fois ministre dans les gouvernements français. Alors, comment expliquer cela ? Félix Houphouët-Boigny était le président du RDA.
Mais avant cela, il a fondé le PDCI.
Il a fondé auparavant le PDCI le 9 avril 1936.
Il y a eu aussi le syndicat agricole africain.
Ça, c'était en 1944, le 10 juillet 1944, le syndicat agricole africain, qui va donner le départ en quelque sorte de la lutte anticoloniale contre le régime d'exploitation coloniale. Mais pour en revenir à la question que vous posiez, qu'il était ministre, je vous expliquais qu'il était le président du RDA, qui avait remporté les élections en Afrique francophone en 1956. Et c'est ainsi qu'il a été appelé au gouvernement par M. Guy Mollet, qu'il a été ainsi ministre délégué à la présidence. Ensuite, il a été ministre d'État sous le président du Conseil Maurice Bourgès-Monnery, ensuite ministre de la Santé et de la Population, ministre d'État encore sous Pierre Femenin, sous De Gaulle, et puis enfin ministre d'État sous Debré Michel. Donc ça fait 6 fois ministre dans un gouvernement français. Après cela, il sera bien sûr Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, avant d'être élu en novembre 1960, président de la République, sera reconduit à 6 reprises, comme vous le savez.
Mais qu'est-ce qui a bien pu militer en sa faveur pour être désigné 6 fois ministre du gouvernement français ?
C'est parce qu'il était le chef du plus grand parti, l'Afrique francophone, le RDA. D'autant plus que ce gouvernement avait besoin de la caution du plus grand parti d'Afrique francophone pour essayer de conduire sa politique de décolonisation.
Et justement, qu'est-ce qui a marqué l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance et donc le combat de Félix Houphouët-Boigny ? Ça n'a pas dû être toujours facile.
Ça n'a pas du tout été facile, et ceux qui parlent d'indépendance octroyée sont vraiment mal inspirés. Moi, je pense qu'il faut parler d'indépendance négociée. Parce que si on pense que ça a été octroyé, c'est faire fi des sacrifices et des morts entraînés par la lutte anticoloniale en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il y a eu à Dimbokro, qu'il y a eu à Boisflay, etc. Donc on ne peut pas parler d'indépendance octroyée. C'est parce que les Ivoiriens se sont mobilisés, ont été pris en charge par le mouvement politique qui était le RDA, que le colonisateur a été obligé de jeter du lest et de négocier pour en arriver en fin de compte aux indépendances dans les années 60.
Quels ont été les proches d'Houphouët-Boigny dans cette lutte, ses compagnons de route ?
Il en a eu beaucoup, ivoiriens et non-ivoiriens. Son alter ego, ça a été Wezin Koulibaly. et qui a été aussi député de la Côte d'Ivoire, Mamadou Keïta au Mali, il y a eu ceux de l'Afrique, Léon Ba, il y a eu également Sékou Touré, Modibo Keïta, etc. Donc c'est vraiment toute cette élite-là formée à l'école coloniale qui a pris conscience de la situation de nos pays et qui a conduit la lutte pour l'indépendance politique.
Vous l'avez dit, le président Félix Houphouët-Boigny est resté au pouvoir en Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Voilà, oui. six fois, vous l'avez dit.
Il a été réélu 6 fois, oui.
Voilà, réélu 6 fois. Alors, qu'est-ce qui a marqué sa politique intérieure et sa politique extérieure également?
Alors, moi, du point de vue de la politique intérieure, il a hérité d'un État, il n'a pas hérité d'une nation. Et un de ses premiers objectifs, c'était justement de faire de cet État ce qu'il a hérité de la nation.
C'était l'entrevue de Malika Kamara.
En réussissant à unir les Ivoiriens, à les fondre dans un creuset national. C'est un des grands éléments de sa politique intérieure. Et puis, le deuxième élément, c'est de jeter les bases d'un développement durable. Et il a mis un accent tout particulier sur le développement de l'agriculture. Parce qu'il se rappelle que l'histoire européenne, c'est à partir de l'agriculture que l'industrialisation s'est faite. Donc, il a mis l'accent sur le développement de l'agriculture avec les résultats que vous connaissez. La Côte d'Ivoire est actuellement le premier producteur mondial de cacao et le premier producteur d'autres productions végétales pour l'Afrique, etc. Et puis le deuxième élément, ça a été la politique d'éducation. Il a mis le paquet, c'est vraiment le cas de le dire, sur la politique d'éducation. Parce qu'il n'est de richesse que d'hommes éduqués et formés. Il a consacré jusqu'à 40% du budget national pour l'éducation. Ben, les résultats sont là. La Côte d'Ivoire, qui était la Benjamin des colonies de l'Afrique de la OEF, à l'époque, on parlait du quartier latin qui était le Bénin, ensuite le Sénégal. Ben, grâce à cette politique volontariste de formation des hommes, la Côte d'Ivoire a maintenant les ressources humaines de qualité et en quantité pour conduire son développement. Ça, c'est un des grands aspects de la politique intérieure de Félix Houphouët-Boigny, en plus du maintien de la paix et de la recherche de l'unité nationale.
Mais en même temps, son départ a coïncidé avec une sorte d'instabilité politique aussi en Côte d'Ivoire.
Oui, mais est-ce que c'est Félix Houphouët-Boigny qui est responsable ou bien est-ce que c'est lui qui a pris la suite? Parce que je pense qu'il avait, en partant, donné tous les éléments pour qu'on continue la politique de paix et de développement. C'est parce que les différents successeurs n'ont peut-être pas agi comme ils se devaient. Et nous en sommes arrivés à cette situation.
Et concernant la politique extérieure?
Comme il a dit lui-même, c'était une politique de paix et de coopération. Du point de vue régional, c'était soutenir les ambitions de leadership de son pays, la Côte d'Ivoire. Puis du point de vue international, être au service de la paix, du dialogue, pour pouvoir régler tous les différends. Et il a été très positif qu'il s'agisse d'interventions pour des conflits africains, par exemple entre le Mali et le Burkina Faso, pour ce qui s'est passé en Afrique centrale, et puis son approche sur les problèmes israélo-palestiniens. Il a toujours plaidé pour la reconnaissance de 2 États, un État israélien et un État palestinien. C'est d'ailleurs la résolution initiale qui avait été votée par l'ONU et qui n'avait pas été respectée ni par les Israéliens ni par les autres Arabes, et qui fait que nous sommes encore dans cette même situation-là. On parle toujours de la création d'un État palestinien. Je pense que c'est une des solutions au problème, la reconnaissance des droits nationaux des Palestiniens.
On sait que le président Félix Houphouët-Boigny aussi a conçu la basilique, hein, Notre-Dame de la
ça.
Paix.
Tout à fait, oui.
Très chrétien.
Félix Houphouët-Boigny avait compris que c'est en ayant recours non seulement aux valeurs humaines, mais aussi aux valeurs transcendantales, et donc en faisant jouer sa foi, qu'il pouvait mener à bien son projet politique. Et donc, je pense que la construction de la basilique, c'est un acte de foi et ça situe aussi dans cette perspective-là.
Félix Houphouët-Boigny, finalement, un homme parfait?
Un homme parfait, non. Tout homme a ses qualités, ses défauts. Et Félix Houphouët-Boigny n'est pas exception à la règle. Mais moi, je suis historien. Et donc, les historiens essaient d'apprécier quelle a été l'action historique d'un personnage comme Félix Houphouët-Boigny, qui a été un grand homme d'État. Et donc, on essaie de relativiser, ne pas se situer au niveau des contemporains, mais se projeter plus loin dans le long terme, dans la longue durée. Et dans la longue durée, qu'est-ce qu'on retiendra de Félix Houphouët-Boigny? 1, qu'il a conduit son pays à l'indépendance. 2, il a jeté les bases de la nation ivoirienne. Trois, qu'il a maintenu la paix pendant toute cette période-là. Et donc, il a été positif de mon point de vue dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'on retiendra. Tous les autres aspects, c'est la même chose. Prenez les autres pays, quand vous prenez, je sais pas, Napoléon, c'était pas un démocrate. Mais on sait ce qu'il a apporté à son pays, la France. Prenez Louis XIV, prenez même De Gaulle, que les Mitterrand traitaient de dictateurs. Donc, on s'arrête pas à ce niveau-là, qui relève de l'histoire immédiate. Mais on essaie de saisir le personnage dans la longue durée. Et quand on le saisit dans la longue durée, de mon point de vue, ça m'engage que moi, il a été positif pour l'histoire de son pays et c'est pour cela qu'il est passé dans l'histoire.
Jean-Noël Loukou, merci.
Merci bien.
C'était l'entrevue Malika Camara.